Bonjour à tous et à chacun, à chacune et à toutes. La route inconnue vous invite aujourd'hui à faire la connaissance d'une jeune auteure dont on parle beaucoup ces dernières années. Il s'agit de Marlène Tissot. Vous retrouverez, je le précise tout de suite, en cours d'émission, les chroniques de Claude Verset, Cécile Guivarch et Patrick Jokel. Je vous souhaite donc de passer en notre compagnie une belle heure à venir et je vous remercie de votre fidélité. Marlène Tissot est née le 10 juin 1971. Elle a déjà publié une douzaine de livres. Deux lui ont valu un prix. Sous les fleurs de la tapisserie, publié au Citron Gare, a obtenu le prix Copeau 2015 et Maille à l'envers a retenu l'attention du jury du prix du premier roman de Laval, car Marlène Tissot, poète, est aussi romancière. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview qui sera suivie, je le précise aussi, d'une lecture de poèmes extraits de Sous les fleurs de la tapisserie, publié, comme je le disais à l'instant, aux éditions Citron Gare. Alors, la première question, elle est basique, elle est rituelle. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré la poésie?
Je l'ai rencontrée en tant que lectrice très tardivement, vers une vingtaine d'années. Avant ça, je pensais que je n'aimais pas du tout la poésie, parce que pour moi, c'était les récitations à l'école, et ça ne me plaisait pas tellement.
Oui.
Au niveau de l'écrit, j'ai commencé à écrire de la poésie très tôt, vers 10-12 ans à peu près, une poésie pleine de rimes et très, très calibrée, ce que je ne fais plus du tout aujourd'hui, ou alors très rarement. Mais étrangement, j'en ai écrit avant de mesurer la dimension que la poésie pouvait avoir.
Ouais.
Et la poésie contemporaine est vraiment très, très riche.
Ouais. Alors, vous venez de dire que vous l'avez découverte à 20 ans. C'est un poète, précisément, que vous avez découvert?
Alors, j'ai commencé avec les poètes américains de la Beat Generation, et c'est ça qui m'a poussée à aller voir au-delà, plus loin. Mais à cette époque-là, c'est avec eux que j'ai découvert.
Ouais. Alors, je me suis demandé comment j'allais vous présenter aux auditeurs de La Route Inconnue qui ne vous ont pas encore lu. Eh bien, finalement, c'est François-Xavier Farine qui m'a soufflé la réponse de vous. Il dit que vous êtes une Bukowski au féminin. Est-ce que ça vous convient?
Je pense que c'est abusif, honnêtement. Après, lui, il le ressent comme ça. J'aime pas trop les comparaisons, dans le sens où, heureusement, on a chacun sa voix, qu'elle soit bonne ou pas, mais il peut y avoir de l'inspiration dans la forme du geste, peut-être, mais je n'écris pas en pensant à un auteur.
Ouais.
Jamais.
Mais est-ce que vous faites
Donc,
partie de cette...
Il nous nourrisse forcément. Mais...
Ouais. Vous faites partie de ces générations d'auteurs qui ont été foudroyés par Bukowski. J'entends beaucoup dire grand bien de Bukowski de la part des jeunes poètes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Moi, je...
Mais moi, c'était plus Brötigan.
Brötigan, oui. Alors, moi, je vous comparerais, si je peux me permettre, à la poésie de Raymond Carver aussi. Est-ce que...
Ah, j'adore, ouais. Oui. Oui, aussi beaucoup. J'ai découvert plus tard.
Plus tard, oui.
J'ai commencé par ses nouvelles, ensuite la poésie... J'aime énormément.
Oui. Alors, votre écriture, on va parler de votre écriture, elle est alerte, elle est féroce souvent, elle est drôle et délibérément impudique. Et c'est sur votre difficulté d'être que cette poésie braque son projecteur. Je vous cite, « Il y a des vies en construction, la mienne est en démolition. » Or, ce constat qui est froidement énoncé nous fait sourire, c'est vraiment la magie des mots.
Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est qu'il y a un côté à la fois désabusé et léger. Et je ne sais pas comment, par quel moyen il y a ce ressenti à la lecture, hein, probablement parce que c'est la manière dont je le ressens aussi. Mais oui, il m'arrive d'être à la fois d'avoir un regard sur le monde à la fois désabusé et à la fois éperdument optimiste. Donc je pense que les deux se retrouvent dans mon écriture et dans ce que je dis et dans la manière de le faire.
Alors, quand je parlais d'impudeur, c'est que votre poésie ne cache rien de qui vous êtes et de ce que des relations que vous pouvez avoir avec vos proches, par exemple.
Oui, ce n'est pas que ça. Il y a heureusement une large part d'invention ou de choses... voler dans le quotidien qui tourne autour on capte parfois, on prend un train, on capte des conversations. On se nourrit de tout, en fait, en écriture. Donc, c'est vrai que j'utilise souvent la première personne et que ça a l'air très intime, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est un choix de ma part de le faire comme ça parce que je pense que en attrapant le lecteur de cette manière, on peut lui faire ressentir plus d'empathie. Que ça nous concerne, nous, en tant qu'auteur, ou n'importe qui d'autre.
Peu importe.
Le fait de l'énoncer de cette manière, assez crûment, ça va aller faire tomber les barrières entre le texte et la personne qui le lit.
Oui. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver votre manière, votre style, quoi, ce côté direct et parfois et tout de même très étoffé. J'aurais quand même pas que les gens pensent que non, c'est un style très étoffé. Vous avez mis du temps à le trouver.
Je pourrais pas vous dire et je pense que je suis toujours à la recherche de quelque chose. Ce que je cherche en général, c'est la justesse. Il y a souvent des mots très simples dans ce que j'écris. C'est un choix. C'est pas parce que je manque de vocabulaire particulièrement, mais simplement parce que parfois, pour dire une chose, quand on prend le chemin le plus court, le plus direct, c'est là où ça va le mieux interpeller et le mieux ouvrir des voies, etc. Donc je suis pas une spécialiste de la poésie très éthérée, très fleurie, par choix, oui. Parce que j'ai envie de ça, de quelque chose de direct, concret, pas tourner autour du pot, etc. Mais je ne sais pas si j'y arrive convenablement et je continue de chercher toujours des manières de dire ce que j'ai envie de dire.
Alors, tout de même, c'est, effectivement, votre poésie est souvent comme ça, abrupte, voire cinglante, mais tout de même, elle trouve parfois des accents de tendresse pour lancer au lecteur un appel au secours. Je cherche dans le regard des gens un endroit doux, un endroit tendre, dites-vous dans un de vos poèmes. Mais un petit peu plus loin, ben, finalement, vous plaignez que ces appels au secours ne soient pas entendus. Hein.
Oui, il y a de ça. Je pense que quand on écrit... À la base, quand j'ai commencé à écrire, quand j'étais gamine, c'était parce que j'avais une incapacité à communiquer oralement. Je ne savais pas exprimer ce que je ressentais, ce que je pensais. J'étais totalement fermée. Et l'écriture a permis de libérer une certaine chose. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a toujours un peu de ça et que tout ce que je renferme, parce qu'on est cloisonné un peu dans une vie, chacun, la société, les choses à respecter, il y a tellement de choses qu'on ne dit pas que l'écriture, c'est un moment où... Il y a quelque chose de libérateur. Je m'interdis absolument rien en écriture. Je pense pas à ma famille, à ce qu'ils vont penser, à mes proches. C'est un moment où je pense à personne, ouais. Du tout. Où j'exprime, où je laisse sortir des choses. Donc il y a peut-être des appels, il y a peut-être des coups de colère, il y a des tonnes de choses que j'exprime à travers l'écrit parce que je peux pas le dire autrement.
Alors chacun peut se reconnaître dans votre poésie, hein. S'y projeter, parce que finalement, vous nous parlez de choses qui nous sont proches et communes, hein, la dureté des temps, la solitude, et puis il y a aussi une forme de désenchantement qu'on sent à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, d'ailleurs, comme si la vie n'avait pas tenu ses promesses, finalement, des promesses qu'elle nous aurait faites enfant. Est-ce que vous avez eu ça en passant le cap de l'enfance pour aborder l'âge adulte, cette espèce d'immense déception?
Oui, je pense qu'elle est arrivée même très tôt, peut-être trop tôt. Et du coup, j'alterne en permanence dans ma manière de penser et d'envisager les choses, la vie, etc. Entre les histoires, les contes de fées qu'on s'invente et la réalité qui finalement ne correspond jamais à ce dont on rêve quand on est gamin. Donc c'est ça, c'est un va-et-vient permanent entre le rêve absolu et oui, on peut inventer la vie qu'on veut, et le non, en fait, on n'est rien du tout, dans un monde de rien du tout.
Et on sent que la petite fille est toujours là, vous le dites d'ailleurs dans un poème, la petite fille de 7 ans qui se fait gronder.
Oui, oui, oui. Oui, je pense que j'écris avec plusieurs voix dans ma tête, oui. Dont la voix d'une petite fille qui est toujours très présente.
Je voudrais qu'on parle un peu de vos compagnonnages, parce que vous aimez lire vos poèmes vous-même, donc dans les festivals et en tout lieu où la poésie s'énonce à voix haute. C'est votre famille finalement que vous avez trouvée, qui vous a peut-être fait défaut dans votre enfance?
Je ne sais pas si c'est un moyen de compensation réellement, non, c'est autre chose, une autre dimension. Alors de là à dire que j'aime lire ma poésie, c'est pas exactement ça. Au départ, à vrai dire, j'aimais pas ça du tout, parce que c'est une épreuve. Écrire, on est tout seul, ensuite le lecteur a le livre, on n'a rien à affronter. En revanche, la lire, c'est être vraiment face au regard, face à l'écoute des gens, et c'est quand même quelque chose de difficile. Mais j'ai fini par mesurer l'importance de ça. C'est-à-dire que on accompagne les textes qu'on a écrits, on va plus loin, on leur donne une autre dimension avec l'intonation, avec tout un tas de choses qui peut parfois changer totalement le sens qu'en avait retenu un lecteur. On m'a dit parfois, mais ce texte-là, je l'avais pas lu du tout de la même manière. Maintenant, je le comprends différemment, etc. Donc, c'est pas que j'aime particulièrement lire, mais j'aime partager et aller au bout de l'exercice d'écriture. C'est-à-dire, on écrit et ensuite on porte. C'est comme un texte de théâtre. Il y a l'écriture d'abord et ensuite il y a la dimension humaine de la chose.
Alors, vous êtes encore une jeune auteure, mais vous avez déjà participé à de nombreuses aventures éditoriales dans des revues, des fanzines. On voit quand même que le partage, c'est important pour vous.
Ah oui, je pense que c'est vital. C'est vital. Si on tourne comme un poisson dans son bocal tout seul, on va pas très loin. Donc oui, lire d'autres écritures, partager des émotions, partager des textes dans des recueils collectifs ou effectivement des fanzines, des revues. C'est très important de se frotter à ce qu'écrivent les autres et partager ce qu'écrivent les autres, parce que ça va bien 5 minutes de se tourner autour du nombril, mais il y a tellement de choses magnifiques, il faut les partager.
Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une famille d'auteurs aujourd'hui?
C'est un sentiment assez diffus, mais oui, je dirais quand même, il y a une partie très... Dans le fond comme dans la forme, quelque chose d'assez libre, narratif aussi, réaliste, on pourrait dire. Donc oui, il y a pas mal d'auteurs que je lis, notamment, où je sens qu'il y a quelque chose, une corde invisible qui nous relie d'une certaine manière. Après, je ne saurais pas exactement l'expliquer. C'est un ressenti plus qu'une explication concrète.
Votre regard, pour terminer, avant que je commence à lire vos poèmes, votre regard sur l'actualité, elle est riche aujourd'hui. Je pense à Nuit debout, je pense aux violences, je pense aux attentats de ces derniers mois. Voilà des choses qui donnent à réfléchir à une poète de son temps. Vous y êtes sensible à cette actualité?
Oui, je suis très sensible à l'actualité. En revanche, j'ai énormément de mal à écrire dessus. Parce que, comment dire, j'aurais peur de ne pas être légitime dans une parole quelque part politisée. Et ça, mes idées et mes points de vue se ressentent au travers des écrits, mais je n'arrive pas à écrire concrètement sur un fait précis. Et je ne suis pas la seule apparemment, parce que j'ai fait récemment une lecture à Grenoble avec un jeune poète qui lui aussi participe beaucoup aux Nuits debout, etc. Et il lui a été demandé d'écrire pendant ces nuits-là, et il n'y arrive pas. Je pense qu'il faut aussi un certain recul. Et moi, il y a beaucoup de choses difficiles sur lesquelles j'ai écrit après les avoir digérées. Je pense qu'il faut digérer quelque chose avant de pouvoir en régurgiter quelque chose de convenable. Mais c'est mon point de vue. Voilà. Donc je n'écris pas particulièrement sur
Sur
l'actualité,
l'actualité, mais en tout cas,
parce que
vous
je
y
ne
êtes
m'y intéresse
effectivement.
pas, mais parce que c'est difficile.
Marlène Tissot, un grand merci à vous. Chers auditeurs de la
Merci
route, je
à
vous
vous.
propose d'écouter quelques notes de musique, puis je vous lirai des passages du livre de Marlène Tissot, Sous les fleurs de la tapisserie, publié aux éditions Citron Gare, dirigé par un excellent poète, Patrice Maltaverne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sous les fleurs de la tapisserie, Marlène Tissot. Ça regarde passer la fille, et ça scolle des mines outragées en travers des sourcils. Ça soupire, ça lève les yeux au ciel. Ah, ça serait ma fille, elle se promènerait pas dans cette tenue. Ça ricane aigre, ça insinue des horreurs. Faut pas que ça s'étonne de se faire agresser si ça monte son cul. Ça juge, ça condamne, ça oublie que c'est passé par là aussi. On ne devient pas femme du jour au lendemain. On tâtonne, on s'exerce, on déploie ses ailes un peu trop fort parfois. Ça regarde passer la fille et ça planque son amertume sous les bonnes mœurs. Ça planque ses seins arides et sa peau flétrie. Ça camoufle ses varices et ses rides. Ça donnerait cher pour remonter le temps, mais ça ne l'avouerait pour rien au monde. Alors ça regarde passer les filles et ça se colle des mines outragées en travers des sourcils. Je pourrais te haïr, maman. Ce serait si facile de te haïr quand tu es assise là, tellement parfaite sur ton sofa crème avec tes étagères sans aucune trace de poussière, un cake aux pommes encore tiède, un pot de café, des tasses en porcelaine diaphane, et tes sourires lisses comme dans les magazines, tes jolis vêtements, tes ongles peints, les gros yeux que tu fais en entendant des gros mots dans la bouche de tes enfants. Ta bonne humeur inaltérable, dont je devine la source quelque part au creux de ta poitrine, magnifique. Mais il y a cette ombre, planquée sous tes paupières, planquée sous le maquillage, planquée sous la surface brillante de ta petite vie, tellement parfaite. Oui, je pourrais te haïr. Ce serait si facile sans cette ombre minuscule. Les liens ont beau être faits de sang, ils n'en sont pas moins solubles. Chaque fois, il me semble que j'ai un peu moins de choses à te dire, et tu restes là, avec tes yeux qui fouillent au fond des miens, en attente de tout ce que je ne peux plus, ne veux plus te donner. Je parviens encore à fabriquer quelques phrases de carte postale, rapidement suivies d'une formule de politesse, m'autorisant à prendre congé, en douceur, avant que tu poses trop de questions, avant que je sois obligé de dire la vérité, te montrer les cicatrices indélébiles que tes mots ont autrefois laissées sous ma peau. Tandis que tu déploies comme des ailes majestueuses tes armes de séduction massive, je reste là planqué dans l'ombre pulpeuse de tes sourires décolletés. J'habite les fissures du silence, sans doute à cause de cette peur vertige qui m'enfle le cœur toutes les fois où je dois parler à quelqu'un. cette sensation de sauter d'un plongeoir très haut, tomber vite et fort, nez au vent, vrille au ventre, alors qu'en dessous, l'eau s'évapore avant de me cueillir. Il faudra un jour, maman, que tu m'apprennes à nager dans la vie aussi gracieusement que toi. Tu te dis, bois, pourquoi pas ? C'est un moyen rapide de s'échapper, de voir du paysage quand on a de quoi s'offrir ni voyage ni fuite véritable. À l'automne, tout fout le camp, tout se met à tomber, tu te dis, moi aussi, pourquoi pas ? Et tu imagines assez bien ta chute au ralenti comme celle de cette feuille d'érable rouge. Un autre vert de rouge pendant que l'automne disperse les dernières couleurs avant l'hiver. Tu te dis, boire, pourquoi pas, et devenir gris dans le gris, disparaître avant la prochaine floraison. À la moindre remontrance, à peine élève-t-on un peu la voix, quelle que soit la broutille que l'on me reproche, immédiatement, j'ai 7 ans. Mes fautes deviennent gigantesques, impardonnables. J'ai peur d'être puni. On dirait que j'ai 7 ans pour l'éternité et je pleure des rivières. Je m'enfuis à la nage parce que je n'ai simplement pas la force d'affronter le noir au fond des regards. La force fragile des enfants. Leurs yeux immenses, ouverts. Et cette petite détresse cachés sous l'insouciance. Lorsqu'ils devinent qu'un jour, ils feront partie de ce monde-là, le grand, celui qui fige les rêves si l'on n'y prend pas garde. Il y a les jeunes qui n'aiment pas les vieux, et les vieux qui ne supportent pas les jeunes. Lui, il n'est pas encore vieux, mais il n'est plus très jeune. Et il ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de ce qu'ils ne sont plus ou méprisent ce qu'ils finiront par devenir. Les jours se suivent à distance respectable en s'épiant, mine de rien, comme s'ils craignaient que le prochain les morde ou qu'il leur fasse de l'ombre. Le pire serait sans doute qu'ils se mettent à tous porter le même costume, à marcher au pas, à baisser les bras. Il faudrait parfois un hier qui lambine, un demain qui se pointe sans prévenir, et un aujourd'hui qui ne se soucie ni du précédent, ni du suivant. Il y a le temps qui passe et on se demande ce qu'on pourrait bien en faire de beau, ou pourquoi pas, d'utile, tricoter les heures, empiler les jours, en fabriquer des murs, des toits, des hôpitaux, des fusées, des bombes, des livres. Mais il n'y a plus de place pour rien ici. Tout le monde construit jusqu'à plus soif, jusqu'aux étoiles, empile les dollars, les victoires, les voitures, les voyages, les enfants, la nourriture dans les placards. Tout le monde court vers le rien savamment étiqueté, cherche à graver son nom quelque part pour oublier la poussière qui se dépose lentement sur les paupières et rend aveugle au temps qui passe, à l'éternité qui se moque de nous, de nos petits jeux futiles.
Waking life, your profile in shadow. Raise yourself to the morning low. Night is gone, long way turning. You've waited long enough to know.
Dans la rue, les volets sont clos comme des paupières. Petit matin frisson, arrosé de jus de loupiote. L'homme souffle sur ses mains rougies, les frotte un peu l'une contre l'autre, rajuste son bonnet, puis il attrape le manche du balai et se remet à brosser les dents du caniveau. De l'autre côté du mur, ça dort encore. Ou bien ça se réveille à peine, ça verse de l'eau fumante sur le café soluble en bâillant. Ça pense pas trop à ceux qui sont dehors à cette heure.
Ça pense surtout à ses petits problèmes. Chacun ses gerçures, chacun ses crevasses. C'est un de ces jours où le ciel a des troubles de la personnalité, se hisse loin et haut, rigide et gris comme une tôle d'acier, aiguisée, suspendue au-dessus de la nuque de nos vies. La ville n'a pas besoin de toi, de moi, pour pousser, brique après brique, toujours plus haut, forêt toxique qui se nourrit de nos crachats, nos pas pressés, nos angoisses, nos besoins de chaleur, nos bitures, nos humeurs de chien, nos envies de pisser au pied des lampadaires, arroser le sourire mesquin du bitume luisant, mais la bienséance, ah oui, la bienséance, cette drôle de chose qui nous empêche de redevenir tout à fait animal, rugissant dans la ville qui pousse toujours plus haut et plante ses racines dans le ventre de nos rêves. Je cherche dans le regard des gens un endroit doux, un endroit tendre. Je cherche quelque chose à creuser, quelque part où germer. Mais c'est encore plus sec que le carré de terre sèche au fond de mon jardin. Je cherche dans le regard des gens quelque chose à manger, quelque chose qui aurait le goût d'un sentiment, peut-être même quelque chose de pur à partager, trinquer et boire au goulot de leurs paupières une larme de sincérité. Ma boîte de déception est pleine de vide, de ton silence, de non-réponse à ce que je n'ai jamais osé te demander. Faut croire que la télépathie n'a pas encore trouvé de fournisseur d'accès. Autrefois, je croyais que les adultes ne pleuraient pas, n'avaient jamais peur, connaissaient toutes les réponses. Je me disais que grandir nous transformait, qu'une étrange alchimie rendait les choses plus simples, qu'on n'avait plus à s'inquiéter de rien, sauf gagner de l'argent et se soucier de certains détails comme égoutter les nouilles ou sortir le linge de la machine à laver. Évidemment, je me trompais. Les adultes sont juste des enfants qui ont appris à faire semblant et cachent leurs larmes et tout un tas d'autres choses. Le roulis, les odeurs, la chaleur, nos corps projetés à grande vitesse dans les boyaux de la ville et ces deux types contre mon ventre, contre ma hanche, qui parlent de géopolitique, de géopuis, de politique, avec leurs visages blêmes, leurs haleines mantelées, pour camoufler quoi? Ces deux types qui parlent de crise économique, de dividendes, de plus-value, qui parlent dans un langage opaque, de comptes supposés être transparents. Ils soupirent, épongent une sueur à l'odeur de dollars et le plus âgé croise mon regard, me sourit, carnassier, séducteur, affamé, m'a sans doute confondu avec une entrecôte saignante. Je lui signifie froidement, d'un battement de cils méprisant, qu'il peut remballer hélico sa bite et son couteau. C'est pas comme si t'avais une multinationale à faire tourner, ou bien que tu préparais un nouveau vaccin contre la prochaine grippe. C'est pas comme si tu travaillais sur quelque chose d'important, bordel. C'est pas comme si tu écrivais une histoire à succès. Alors occupe donc tes mains à des tâches vraiment utiles, comme étendre la lessive ou préparer le repas. Je ne sais pas trop pourquoi je mens, et ce ne sont pas réellement des mensonges, mais plutôt des choses que je passe sous silence. La peau de mon âme qui refuse de se dénuder, comme si parler de moi me faisait froid en dedans. Alors je me tais, je me fais toute petite, planquée sous les fleurs de la tapisserie, et quand on m'oublie enfin tout à fait, j'invente des histoires pour mettre le feu à la paille des jours, pour faire mon intéressante dans la solitude des pages à carreaux. Il y a des vies en construction. La mienne est en démolition. Remise à nu avant travaux. J'ai trop souvent tenté de rafistoler, colmater, cacher la misère. J'habitais un corps garde-meuble, garde-malade, foutraque et casse-gueule, poussiéreux, étouffant. J'ai eu besoin d'air, débouler les vieux murs, encrasser du gris des souvenirs, de tout abattre pour mieux reconstruire, ou peut-être me contenter du vide, du silence et de l'horizon enfin libéré. Voilà, c'était donc des extraits de très très beau livre de Marlène Tissot, « Sous les fleurs de la tapisserie », publié aux éditions Le Citron Gare, une maison d'édition qui fait de très jolis bouquins. Pour vous le procurer, ce livre et tous les autres livres, le cas échéant, des éditions Citron Gare, il faut tout simplement écrire à Association Le Citron Gare, 12 rue de l'Abbaye, 57 000 Metz. He raked me in the shallow lines. The girl I shared with was away for the night. I couldn't get up for my shift today. I'll have to leave the camp now. Anyway, I'll go to London. There's a mate of mine I know. She'll give me full of woe and further to go. He raped me in the shallow lines. I had just said no for the final time. Although it's last month, it's like yesterday. I missed my time, I don't think I could stand to take the test. I'm feeling sick. Fuck this, I've felt like this for a week. I put a knife right into his eyes. My friend can't see. She asked me why I don't tell the law. Oh, what's the fucking point at all? Shallow lines. It was a party, it was going fine with the boys from the amusement park. A few were idiots, it was a really good laugh. They had the shows on till way after dark. I hope she'll give me a place. Full of woe and further to go.
She caught the bus.
Oh, I'll go anywhere.
She caught the bus.
Her face was just a smear on the pane. C'était le groupe anglais Belle et Sébastien. Tout de suite, Claude Verset pour sa chronique mensuelle.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Dans son dernier livre, récemment paru, Laurent Grisel relève un défi de taille, défi qui apparaît dans le titre même, Climat, paru chez PubliNet. Il s'agit en effet d'évoquer poétiquement, oui, nous sommes bien dans une chronique de poésie, d'évoquer poétiquement la question de l'évolution des climats, du réchauffement climatique, oui. Laurent Grisel reste un auteur rare. Rare en ce qu'il prend le temps de conduire jusqu'à leur terme des projets ambitieux autour d'un livre, mais qui ne se résument pas à la seule dimension du livre, qui se prolonge par exemple par des mises en voix, des mises en scène, des lectures, souvent à plusieurs voix. Et comme à son habitude avec Climat, Grisel a fait précéder le temps de l'écriture d'un temps de recherche, d'accumulation d'une documentation précise, scientifique, irrécusable. Et si surprenante que peut paraître cette poésie aujourd'hui, elle rejoint et ressuscite un grand genre poétique tombé en désuétude, celui d'une poésie didactique, comme au XVIe siècle l'a pratiqué encore Du Bartas ou Ronsard. Ceci n'est pas une histoire, prévient le premier poème, mais une épopée. Épopée éprouvante, il ne faut pas le cacher. En ce qu'au bout du compte, c'est bien la fin de l'homme et de la terre habitable qui paraît inexorablement programmée. Même si Climat s'attache aussi à rendre hommage aux lanceurs d'alerte et aux résistants, au peuple Munduruku, je cite, en lutte contre la construction d'une voie navigable sur le fleuve, qui leur volera leur fleuve, qui est leur eau à boire, leur bain et leur baignade, leur pêche. Qui rend hommage aussi à James Hansen, qui, dès 2005, annonçait la montée des eaux et les désordres climatiques qui allaient suivre. Elle est difficile à nier aujourd'hui. Mais aussi nourrie qu'elle soit de données objectives, cette poésie n'est nullement impersonnelle. Laurent Grisel se l'approprie, remerciant par exemple en préalable ceux qui l'ont instruit. Ainsi, après un salut aux profs de neurophysio qui l'ont initié aux boucles de rétroaction positive et négative, on lit « Mes premières connaissances des boucles tenues ensemble, je le dois à ma mère, Elisabeth Jouguet, dont les doigts, armés d'aiguilles et de fils, tricotaient et crochetaient inégalablement. Très vite, point de sable, maille rivière, point d'astracan, point noué peut-être. La boucle, mot-clé de cette poésie. La boucle devient, de fait, l'image fondamentale et la figure de style majeure, grâce à laquelle, nombre de fois, le poète décrit l'enchaînement des phénomènes de cause à conséquence devenue cause à leur tour, comme par exemple la fonte des glaciers sur le Kilimandjaro. Kilimandjaro perd ses arbres aussi. Moins d'eau, donc moins d'arbres. Donc moins d'eau des nuages accrochés par des arbres. Donc moins d'arbres. Donc de saison en saison, de moins en moins d'eau. Pour nous sortir de cette mauvaise boucle? Bien sûr que c'est possible, affirme un titre des derniers poèmes. Possible toute l'électricité en renouvelable. Arguments et démonstrations suivent. J'y renvoie. Possible à une condition toutefois. Elle n'est pas mince. Il faut déposséder les possédants de tout. Leur reprendre les ressources qu'ils dilapident. Leur reprendre les décisions qu'ils prennent à notre place. Poésie politique au final. Hymne insurrectionnel de ceux qui précèdent l'action et la campagne. Lisons Climat, un livre en édition numérique, 9,50 € chez Publinet. Allez, à bientôt.
À bientôt Claude Verset, à dans 4 semaines très exactement. Ce sera d'ailleurs la dernière émission Route Inconnue de l'année avant de nous retrouver à la rentrée au mois de septembre comme chaque année. D'autres livres, d'autres coups de cœur avec Cécile Guivarche, puis Patrick Jockel.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je voulais vous parler de deux coups de cœur. Donc, il y a Toute une vie bien verticale de Manuel Dole avec des photographies de Stéphane Girard qui est paru à l'Atelier Contemporain. C'est déjà paru en 2015. J'ai un petit peu tardé à le lire, mais je ne le regrette pas du tout. Manuel Dole, il donne la parole à diverses voix. Il y a une femme qui vit dans une cité, un homme qui prend le train chaque jour, une femme qui est née de la guerre, qui n'a jamais connu son père, un homme qui va à la caisse d'allocation familiale, un étudiant nomade, etc. Des voix multiples surgissent avec force. Elles puisent au fond des femmes, des hommes, les racines, les êtres, le mal-être, les forces et les fragilités. Ces voix sont profondément humaines, à la fois blessées par la vie, blasées par le quotidien, et elles cherchent ce qui les raccroche encore un petit peu à la vie. Elles vont au rythme des trains, traversent les paysages, toujours en mouvement. Elles sont diverses et pourtant se croisent, se relient dans la langue. L'art d'habiter sa vie dépend du lieu où l'on habite. Les souvenirs, les racines, les rencontres, le rapport à l'autre et aussi des zones d'ombre influent sur la façon dont on habite son corps. Le lecteur est saisi par l'intensité de chaque phrase. Il est ému à chaque page. L'écriture est intense, en mouvement, jamais immobile. Vivre dans la cité, c'est bâtir son espace. Manuel Dole donne la parole à ces personnes qui ont dû quitter leur terre d'origine, pas toujours délibérément. Le poids de l'exil, des racines ou des accidents de parcours dans la vie reviennent souvent dans ces lignes. Ce livre nous frappe. Par exemple, il y a la voix de cette femme qui dit « Je m'adapte au béton qui m'entoure », qui dit encore « Nos corps même ne nous appartiennent plus ». Ou encore « Où sont tes arbres qui te servaient de racines comme de parapluie ?» Elle dit aussi « Le bonheur n'était pas prévu dans le cahier des charges ». L'architecture des cités à la verticale est confrontée à l'architecture intérieure. Comment se bâtir de l'intérieur selon le monde où l'on vit? Petit à petit, le lecteur a l'intuition que l'architecte dans ce livre, c'est Manuel Dole. Il construit au fil des pages un livre de vie, donne la parole à ceux qui ne l'apprennent que rarement. Il observe et dit sans détour la vérité de la vie dans les cités et aussi celle des personnes qui prennent le train chaque jour pour aller travailler. Il façonne ce livre tour à tour architecte et aussi maçon. Il nourrit une réflexion sur ce qui nous construit. Il nous fait voyager, nous montre d'autres paysages. Il dit « Quels sont les lieux que nous avons habités vraiment ?» Je veux dire, quels espaces avons-nous vraiment remplis de notre présence au monde ? L'écriture de Manuel Dole est une langue rare. Son geste d'écriture est profondément humain et c'est un auteur qu'il faut découvrir d'urgence. Un autre coup de cœur que je voulais partager avec vous, c'est le premier livre d'Isabelle Bonnat-Lucchiani qui est paru aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune et qui s'appelle « Quand bien même ». C'est son premier recueil. Je l'avais remarqué déjà en revue et nous l'avions même accueilli dans Les Anges à notre table sur Terrassiel. Et c'est une auteure que j'ai bien envie de suivre. Dans ce livre, il y a l'absence, la disparition, mais aussi des souvenirs et beaucoup de regrets. Que reste-t-il lorsque le temps s'en est allé, quand on ne s'est pas tout dit? La réponse incontestable, c'est l'écriture. L'écriture d'Isabelle Bonnat-Lucchiani est en apparence simple, accessible, mais elle traite le sujet en profondeur, avec de la sincérité et de la sensibilité. Elle alterne les vers, les proses, elle creuse, elle va et vient, poursuit toujours un peu plus son travail de forage. Elle cherche son histoire, l'histoire de cet autre, de cet absent dont peu de souvenirs demeurent. On aurait pu. Revient souvent. L'auteur semble porter un fardeau de regrets et c'est par l'écriture qu'il lui est possible de renouer avec ses racines. De l'absence, presque étranger, le connaître mieux cet absent, le faire surgir bien présent dans les mots, le faire entrer dans son histoire, comme l'écrit l'auteur, « Quand tu mourras, il me faudra devenir, quand bien même. » Voilà, je vous remercie beaucoup et à une prochaine fois pour d'autres coups de cœur.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de deux recueils parus en 2016. Le premier, c'est aux éditions Gros Texte. C'est signé Sophie Braganti pour les poèmes et Victor Lano pour les dessins. Et le titre, c'est B, bête. Ça s'écrit avec deux B au démarrage. Et ensuite, le mot « être » comme « bête ». Donc, « Les bébêtes de Sophie », c'est donc un bestiaire tourné vers les toutes petites bêtes. Les insectes, en particulier, y ont une grande place. Et comme ils ont souvent des noms à titiller autant la langue que l'imaginaire, Sophie Braganti ne s'en lasse pas et joue avec beaucoup d'humour autour de ces mots. Elle vole autour, elle joue, comme le moustique joue avec notre sommeil. Elle nous tire ainsi de notre léthargie de lecteur passif à grands coups de claques inventives, drôles et percutantes. On se dit après lecture que décidément la langue offre encore de belles terra incognita Et il est bon que les poètes en soient des explorateurs insatiables. Les dessins de Victor Lannow sont d'une précision de toute beauté, envoûtants. On espère qu'il aura d'autres propositions chez le même éditeur ou chez d'autres, car c'est son premier livre, et en noir et blanc, franchement, ça vaut le coup. Alors, deux poèmes de Sophie, de ses bébêtes. Chauve-souris. Il faut errer le soir la tête en l'air sous les réverbères pour repérer le vol tous azimuts de la souris au crâne rasé. On tourne en bourrique pour suivre ces zigzags qui ne sont pas si anarchiques. Où volait notre skinhead? Quelle est sa politique d'attaque stratégique? Où dort-elle pendant notre sieste? Pendue sous le toit d'une maison en bois? Dans les coins sombres d'un immeuble bourgeois? Dans la grotte où elle entasse ses petites crottes? Dans la cornue d'une sorcière? En tout cas, pas dans une souricière. Elle se gave de moustiques, ceux qui ont échappé aux raids des bombes, au catch sur les rings des multiprises, des multinationales de la propre sécurité. Elle a les idées lourdes, ce qui lui met la tête à l'envers, mais c'est pour elle la seule façon de voir le monde à l'endroit. Sous ses ailes d'allumettes qui lui font une cape noire qu'elle prête parfois à Batman, ses pleurs hantent les nuits, car se faire traiter de vamp, il n'y a rien de pire. Et un second poème, Le Lapin. À l'enragé chasseur, en civet, en terrine, rôti, en gibelotte, à l'étouffé, à la moutarde, en papillote, en sauce, grillé aux aromates, à ma façon, à la provençale, à la tomate, à la forestière, en chocolat. Et le second ouvrage dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est chez Donner à voir, un petit carré, signé Morgane Rillet et illustré par Matt Mallon, le titre « À fleur de poème ». Le poète s'interroge. Qu'est-ce qui fait que je suis poète? Que les mots m'envahissent et que je passe autant de temps sur le papier. On a ici des poèmes qui interpellent les mots, qui les suivent, des mots qui deviennent poètes parce que peut-être ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Ils essaient de dire le monde et de se moquer de l'absurdité de la vie. Un homme qui a bien conscience de sa fragilité, un homme qui s'interroge et qui cherche à vivre au plus près de ce mystère que représente l'étincelle de vie, les labyrinthes de nos vies et leur complexité, c'est le poète à l'œuvre ici. Une complexité qu'accompagne les traits de Matt Mallon, des illustrations qui poursuivent la réflexion instaurée par le poème et qui dialoguent ainsi avec lui et donnent une nouvelle dimension au livre. Un beau petit carré en papier recyclé, comme c'est les concevoir, donner à voir. Là aussi, deux poèmes pour donner à entendre les textes de Morgane. Langue, élan, pour recouvrer l'enfance à la margelle d'un cri sans fond, pour ne plus me sentir nu sous la douche des heures froides, pour me désincarcérer du sentiment ronce du sentier d'abandon, cette fenêtre qui me réinvente avec les moyens du cœur et du corps, et par laquelle rumine, semelle, s'élance, s'émiette des lignes à cloche-voix. Et un deuxième, si. Je sais, silence, sirène, silo, sirop, je sais, cigare, sitar, cité, silice, je sais, cyrus, cyrose, cyprès, cyjoint, je sais, ciré, cirage, sinon, ciné, je sais bien qu'avec des six, on ne refait pas le monde, mais un poème. Voilà pour ces lectures et ces chroniques de ce mois-ci, et je vous dis à bientôt.
C'est avec Patrick Jockel que nous nous quittons. La prochaine édition de La Route Inconnue, eh bien, c'est dans 15 jours. Notre invité sera Pierre Bastide, encore un auteur des éditions du Citron Gare, qui sont donc à l'honneur ce mois-ci sur Radio Grand Ciel. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Nos programmes se poursuivent. Restez-nous fidèles.
Thank you.